Dans le panier de Lisa, Lisa Giraud-Taylor.
Et bonjour, bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Oui, la voix, ça va mieux. Ah, vous avez, enfin, mieux. Tout est relatif. Hein, tout est relatif. Elle s'en va. Voilà. Alors, il y a un peu le canard. Hein. Ah bah. Alors le lutin est, comment dire, dans un état un peu cataclysmique. Voilà. Il y a des moments où il est tout vaillant, comme le pigeon. Et il y a des moments où la voiture. La vaillante, ou alors, comment dire, une larve, voilà, un truc échoué sur une banquise, vous voyez, Jabba le Hutt, mais en plus mince, voilà, parce que non, bah, il ressemble vraiment à Melman, hein, lui, voilà, c'est un truc tout mince, mais un peu affalé, vous voyez, façon Jabba le Hutt, voilà, il oscille, il est très très bien, c'est, voilà, alors moi, je suis toujours très énergique, par contre, le nez, moyen. Et alors la voix, comment vous expliquer? Je sais pas vous, hein, mais alors la mienne, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est dans les aigus, un coup c'est dans les graves, un coup elle n'existe plus. Donc on espère qu'elle va tenir tout le long de l'émission. Hein, voilà, le lutin a pris deux tuteurs pour se tenir, notamment les yeux. Il faut les ouvrir, chouchou, hein, voilà. Et on va commencer l'émission en musique, ça va lui laisser le temps de... Ah, oh là 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 là, il est dans un état, si vous voyez la tronche de la bête que j'ai en face, c'est pas drôle. On va commencer par Axel Bauer et Zazie qui chantent À ma place, chanson que j'aime beaucoup, notamment pour les paroles. Et on va parler de films, parce qu'on va parler pratiquement que de films dans cette émission-là. Et on va finir par un documentaire musical, voilà, que j'aime beaucoup. Et en gros... on vous dira peut-être les séries qu'on va regarder au mois de février, voilà, parce qu'on en a vu deux. Alors on a un peu honte aussi parce qu'il y en a une que l'on traîne sur notre listing depuis, on va le dire tout de suite, oui t'as raison, qu'on traîne depuis pratiquement 3 mois, qui s'appelle The House of Guinness, qu'on a mis dans nos favoris pour la regarder, et à chaque fois qu'on commence on se dit oh pas envie. C'est terrible. Non, mais c'est absolument affreux. Hein. Voilà. C'est, bah écoutez, les vieux, c'est comme ça. Vous verrez quand vous serez jeune. Alors, plus vieux. On va donc écouter Zazie et Axel Bauer à ma place. Ah oui, mais moi, quand il y en a un qui travaille pas en face de moi et qui me fait des signes désespérés qu'il est en train de crever, j'ai du mal à me concentrer. Vous imaginez bien. Allez, et après, on parle du premier film, qui est un très beau film. Très, très, très beau. Et oh, il est magnifique.
Serait-elle à ma place, plus forte qu'un homme, au bout de ses impasses où elle m'abandonne, vivre l'enfer, mourir au combat, faut-il pour lui plaire aller jusque-là, se peut-il que j'y parvienne, se peut-il qu'on nous pardonne. Il qu'on nous aime pour ce que nous sommes.
Serait-il à ma place quelquefois quand mes ailes se froissent et mes îles se noient. Je plie sous le poids de cette moitié.
Enfin, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Bah, pareil, je t'aurais dit, je suis pas une princesse au petit pois et en détresse en haut de la tour. Hein. On va se calmer déjà. Alors, on va parler du premier film qu'on a vu. En fait, par ordre. Par contre, non, mais en fait, c'est pas chronologique, Lutin, parce que le dernier dont on parle, on l'a vu en premier. Non, mais tu fais n'importe quoi dans le conducteur. Tu me fatigues, tu sais. C'est parce que tu es malade que je te pardonne. Bon, alors, on va parler d'un film qu'on a vu aussi. C'est ça. C'est 3 cinémas, 1 télé. Ah, oh là là. Oh non, mais c'est trop évolué pour moi, là. Alors, on va parler d'une enfance allemande, l'île d'Arun, 1945, de Fatih Akin. Alors, on est en 1945 sur l'île d'Arum, qui est au large de l'Allemagne, donc qui fait partie de l'Allemagne nazie. Et c'est dans les derniers jours de la guerre, et on est avec un petit garçon qui s'appelle Nanning, qui a 12 ans, qui brave en fait tous les jours la mer, assez dangereuse hein, de ce coin-là, pour chasser les phoques, pêcher de nuit et... Il travaille aussi dans une ferme voisine pour aider sa maman en fait à nourrir la famille. Et en fait, la fin de la guerre arrive et donc forcément il y a des nouveaux conflits qui surgissent. Et ce petit garçon va devoir apprendre à tracer sa propre vie, son propre chemin de vie dans ce monde de l'après-guerre en Allemagne qui est complètement bouleversé. Hein, la période 45-55 est très essentiel en Allemagne pour comprendre ce que l'Europe est devenue et l'Allemagne après. Donc c'est tiré d'une autobiographie en fait d'un ami de Fatih Akin et un peu son maître dans ce domaine-là puisque c'est l'écrivain Ark Boom qui en fait parle à hauteur d'enfant. Le film est raconté à hauteur d'enfant, donc d'abord les ultimes jours du Troisième Reich et les quelques temps après. Donc Nanning, en fait, il a 12 ans, donc il est né en plein milieu du Troisième Reich. Il a donc fait toutes ses classes chez les différentes corporations pour les jeunes qui avaient formé le régime pour les endoctriner, et notamment les jeunesses hitlériennes. Il vit avec sa maman, qui, elle, est une fervente... partisane du régime, mais qui n'est pas consciente, vu qu'ils habitent dans une île un peu au large. Ils n'ont pas le pied sur le sol continental, ils ne savent pas, ou ils ne sont pas conscients des exactions et des horreurs qui ont été commises à peu près partout en Europe au nom de leur pays. Et Nanning, en fait, il voit... En apprenant tout ça après la chute, toutes ces certitudes qu'il avait apprises lors de ces jeux ou de ces sorties avec toute cette troupe-là, il commence à voir des fissures se faire parce qu'en fait il apprend des choses qui ne collent pas avec ce qu'on lui a enseigné, ce qu'on lui a endoctriné, mais enfin ce qu'on lui a appris comme ça. Et la rude fin du Troisième Reich n'est tendre pour absolument personne, y compris pour les enfants, surtout pour les enfants qui sont qui ont le même âge que Nanning et qui sont formés, qui ont été formés, endoctrinés, mais surtout modelés selon un certain type d'idéaux et de bravoure et de comportement, et qui là se retrouvent face à un espèce de terrain vague. Où on leur dit, mais c'est pas possible, c'est faux ça, ce que tu fais c'est pas bon. C'est un peu, ce film c'est un peu comme une initiation à l'après, et d'ailleurs on suit avec lui et les gens de cette île-là, quand ils apprennent tout ce qui s'est passé, toutes les turpitudes qui se sont passées sur le sol allemand continental, et ce côté... j'y crois pas, c'est pas possible, voilà, parce que quand certains ont été confrontés à la vision même, puisqu'il y a certains villages et villageois qui vivaient à côté de certains camps de concentration ou d'extermination qui ont été amenés à les aider à porter des cadavres, etc., et à leur montrer ce qui s'était passé. Et là, tu es sur une île au large, il n'y a personne qui vient te voir à part 3 soldats et demi, tu sais pas ce qui se passe, voilà. Et franchement, c'est un film... Alors déjà, premièrement, c'est sublimement bien filmé parce que la beauté des paysages est absolument incroyable. Et c'est aussi un film qui pousse à la réflexion du spectateur, et c'est pour ça qu'on a choisi À ma place, même si la thématique de la chanson n'est pas celle-là, mais c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à la place. Et l'émotion dans ce film-là effleure absolument à chaque pan du film, à chaque plan qui est proposé, et c'est ce qui donne la profondeur à quelquefois un regard, un geste, ou le ciel changeant sur un champ, par exemple, ou sur un visage. C'est vraiment, vraiment magnifique. La dernière scène est absolument bouleversante. On n'était pas nombreux dans le cinéma, parce que c'est pas un film qui a été, qui est sorti énormément. Nous, il y avait deux séances par, une séance par jour, et c'était vraiment la séance bateau, vous savez, celle de 15h, où théoriquement en semaine vous bossez. Donc c'est compliqué d'aller au cinéma à 15h. Pas le mercredi et pas le dimanche. Voilà, super. Donc on est arrivé à la choper un samedi. Dans une séance style à 11h30 ou quoi, c'était 13h, une horaire bateau, 13h15, un truc comme ça, où généralement vous vous dites, soit vous travaillez, soit vous êtes en train de déjeuner en famille ou avec des potes et tout, enfin bref. Et on devait être quoi, sur une salle d'une centaine de personnes, on devait être quoi, 20, 25, grand maximum. Ouais, le lutin me fait oui. Et on est sortis, on avait tous les larmes aux yeux. C'est-à-dire quand les lumières se sont rallumées, on était tous là. Oh, ça c'est fait. Après, il faut noter, très belle présence, parfaite, comme d'habitude, hein, on va dire, de l'acteur allemand Matthias Schoenhofer et surtout de l'actrice Diane Kruger. Franchement, un très très beau film. Ça s'appelle Une enfance allemande, L'île d'Arum, 1945, donc c'est de Fatih Akin. Je ne sais pas s'il est dans votre cinéma, pas loin, mais si vous avez l'occasion de le voir dans le cinéma, allez-y. Sinon, quand il passe à la télévision, jetez-vous dessus, hein. Vous pouvez y aller. Allez, une nouvelle pause musicale, et après on va voyager, on va voguer. On va voguer sur les océans. Alors là, pour le coup, un film un peu coup de poing quand même, hein. Allez, on va écouter Duel de Propaganda. Oui, oh bah c'est des vieux trucs, mais ça colle. Et juste après, on se retrouve avec Un navigateur. Vie.
Lose.
Alors c'était Propaganda avec Duel et on va parler d'un film qu'on a vu donc au cinéma encore un, qui s'appelle Magellan de Lav Diaz. Alors là je vous le dis tout de suite, nous sommes avec Magellan. Bah, comme son nom l'indique, hein, on est bien. Alors c'est vraiment un film qui est centré sur les défis de Magellan, défi au roi qui l'emploie, qui l'envoie, et défi contre les océans, et à la démesure de tout ce qu'il va faire, on va dire des découvertes comme du prix des conquêtes qu'il va faire. Et c'est un film qui parle aussi de la vérité de son voyage, la réalité pure. Alors, on suit donc Magellan entre la fin du 15e et le début du 16e, qui est, je rappelle, un des plus grands explorateurs. Le film est littéralement magnifiquement porté et le lutin a été très jaloux, je le dis, parce que c'est un acteur mexicain que j'aime beaucoup, mais depuis plus de 20-25 ans, qui s'appelle Gael García Bernal, que je trouve absolument choupinesque. En vieillissant, il est de plus en plus choupiné, celui-là, qui est absolument... Oui, ben ça va le lutin, on se calme. Qui est absolument génial dans le rôle de cet explorateur, de ce navigateur. Et c'est un film qui parle de... Alors, évidemment, de conquête, de grands espaces, évidemment, de navigation, de lutte contre les éléments, quels qu'ils soient, d'ailleurs. Mais surtout, ça parle de sacré. Comment... certains pensaient qu'ils étaient littéralement en mission pour Dieu ou en tous les cas pour quelque chose de sacré. Et aussi, ça parle du rapport au monde, tout simplement, de ce monde qu'on imagine, surtout à cette époque-là, hein, rappel qu'on ne connaissait pas, certaines contrées. Donc, ils arrivent, ils pensent être quelque part, ils sont ailleurs, ils rencontrent des peuples autochtones, ils se disent « mais d'où ils sortent là ?» etc. Et c'est aussi ce rapport de force qu'il y a entre... la découverte de l'autre. Alors, on parle surtout aussi dans ce film-là, et c'est ce que nous, on a beaucoup aimé, c'est qu'on parle des doutes, des tourments, de l'ambition de ce navigateur portugais qui n'est pas si sûr que ça, en vérité, puisque quand même... vous partez à l'aventure avec des bateaux richement armés, on est bientôt, et richement pourvus, très beaux pour l'époque, avec des, peut-être quelques cassettes de petites monnaies sonnantes et trébuchantes qu'on vous a données, avec une ambition, avec un plan de route, avec la volonté de conquérir des nouveaux territoires pour y poser le drapeau de votre souverain, ou en tous les cas celui qui vous paye. Mais il y a les doutes, et puis il y a les tourments. Est-ce que pendant une avarie de bateau, est-ce qu'on peut sacrifier des gens uniquement pour son ambition personnelle, pour l'ambition de quelque chose, pour ce fameux sacré qui arrive au-dessus? Et au milieu de tout ça, vous avez des scènes de navigation qui sont épiques. Hyper bien tourné, très immersive. Si vous avez le mal de mer, comme moi, où il y a des moments où ça tourne au boulot un peu trop. Alors attention, c'est pas un biopic sur Magellan. Il faut quand même le dire, c'est pas un biopic qui vante Magellan et tout ce qu'il a fait. C'est un film qui a un regard très moderne sur le conquistador, sur la réalité de l'histoire. Quand vous étudiez l'histoire, il y a une réalité quand vous étudiez, ce que les gens oublient beaucoup et très souvent, c'est le contexte historique. Alors je sais, c'est pas de bon temps, contexte historique, antéchrist, mais quand on étudie l'histoire, c'est ce qu'on sait. Nous, on a une perception, et c'est ce que mes professeurs d'histoire, que ce soit à l'école, enfin au collège, lycée ou après à l'université, nous disaient, c'était qu'il ne fallait jamais étudier l'histoire avec notre perspective contemporaine. Il fallait oublier dans l'époque où nous étions pour pouvoir appréhender le contexte historique de l'époque et les conditions du pourquoi, du comment et de la volonté. Et là, il y a un regard moderne qui est très bon sur ce film-là, qui porte notamment sur la colonisation des indigènes et de ce rapport brutal des nouveaux habitants sur les anciens habitants. C'est-à-dire, vous arrivez, vous dites « Ah, tiens, ce territoire me plaît bien, il n'y a personne. Ah, paf, je pose le drapeau. Ah, merde, il y a des gens. Ah, que je vais en faire. Ah, c'est moi le chef. Voilà, c'est moi, j'ai mis le pied sur ça. Vous rappelle personne ?» Voilà. La phrase, c'est pas parce que le Danemark a le territoire depuis 500 ans que ça veut dire que c'est à lui. Tu vas rendre les États-Unis aux Indiens aussi, chouchou. Voilà. Non, mais c'est vrai, voilà. Donc, c'est vraiment un film qui parle de ça, en fait. En gros, vous arrivez sur un territoire qui est vierge, ou en tous les cas qui est habité, mais qui est habité par des gens que vous estimez être des sous-hommes, ou pas comme vous. C'est vous qui me posez le pied, c'est vous les plus forts, c'est vous qui gagnez. Bah, non, voilà. Alors, après, c'est un film qui est, la violence apparaît très clairement à l'écran. On n'est pas au bide des bisounours, hein. Je vous rappelle. Voilà, donc c'est vraiment un film assez dur, très dur. Par moments, il y a des scènes qui sont vraiment insoutenables, mais c'est magnifique. Vraiment, c'est filmé d'une façon absolument sublime. L'émotion est toujours là. Elle vous saisit aux tripes. En gros, c'est comme s'il y avait une main qui vous prenait les tripes et qui est serrée de temps en temps. Je peux vous assurer que de temps en temps, ça serre assez fort. Mais quand vous sortez du film, nous, on en a discuté longtemps avec les gens qui étaient dans la salle. On n'était pas nombreux, encore une fois. Et on est sortis, on parlait entre nous. Et donc, il y a une personne qui s'est greffée, puis un autre couple. Et du coup, on est resté sur le trottoir pratiquement une demi-heure à discuter de ce film-là. Parce que ça offre une sublime réflexion très profonde, en fait, par rapport à ce qu'on a vu un peu brutalement à l'écran, sur la volonté que l'homme, et l'homme avec un grand H, hein, pas homme, femme, cochon, couvée, et encore les animaux non, parce qu'ils n'ont pas ce principe-là, donc vraiment l'homme dans son ensemble, a cette volonté de découvrir un nouveau monde, de découvrir des nouveaux territoires, des nouvelles trucs. On le voit bien avec notre propension à aller conquérir les planètes d'à côté. Cette espèce d'expansion qu'on a et la volonté, par la même occasion, de soumettre celui qui est en face de nous. C'est-à-dire un nouvel être qu'on n'aurait pas connu dans une galaxie ou un autre homme et d'être sûr de sa supériorité par rapport à l'autre. Voilà. C'est un gros problème qu'a l'homme dans son ensemble, l'être humain, qui se croit toujours supérieur à une autre entité qu'il ne connaît, qui est inconnue. Voilà, les animaux, en gros, c'est la loi du plus fort, oui, mais ils se soumettent. Enfin, je veux dire, ils ne tuent pas pour la volonté de tuer. Voilà. Les hommes asservissent pour la volonté d'asservir. C'est très bizarre. Et là, on le voit vraiment dans ce côté un peu conquistadors qui sont arrivés en roi du bal ou en roi du monde, en fait, en se disant, eux, ils vont tout nus, c'est sûrement des primitifs, alors que on sait très bien que les primitifs étaient largement supérieurs. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau film épique. Voilà, c'est une fresque épique. Voilà, mais vraiment très, très... attention, c'est dur, hein. On n'est pas les gosses, hein. Voilà, enfin pas les petits en tous les cas. Alors, c'est Magellan de Lave Gaz. Et on va faire une petite pause musicale avec un vieux titre encore. On a sorti des vieilleries. Quand je lui ai dit que on faisait des chorés comme des folles sur cette chanson-là, il s'est moqué. En mâchant, mâchant le temps. Est-ce que vous vous rappelez de Paula Abdul? Oh, si, quand même. Si, alors je lui ai dit, nous, ce qui nous a fait rêver, c'est son clip. À l'observatoire de Los Angeles où il y a Keanu Reeves. Il faut dire que Keanu Reeves, même encore maintenant, putain, il est quand même beau, ce mec. Il vieillit bien. Et là, c'est Paula Abdul avec Straight Up, et on se retrouve juste après pour un sublime film sur le grand Will. Vous allez comprendre. Non, pas le prince William. On va dire le roi William, en fait, encore. Let me say that if you Oui, alors on a un peu dansé, enfin moi, je lui ai montré quelques pas de danse sur Paula Abdul Straight Up, il s'est un peu moqué, mais je tiens encore bien, ah si si, je tiens bien encore la choré, voilà, je saute moins haut, c'est tout. Alors on va parler du film qu'on est allé voir, vraiment, parce que j'avais adoré le roman. Voilà. Alors, ça s'appelle Hamnet de Chloé Zhao. C'est tiré du roman éponyme de Maggie O'Farrell. Vraiment, j'avais vraiment adoré ce film-là. Donc, je suis un peu à l'initiative d'être allée voir le film. Parce que personnellement, quand le lutin a vu le trailer, il n'a pas voulu y aller. Il m'a dit « Oh, je l'aime pas, l'acteur. » J'ai dit « Moi non plus. » Enfin, je ne suis pas une fan, mais bon, quand même. Voilà. Alors, nous sommes en Angleterre, 1580. Et on est avec un professeur de latin qui est fauché, qui fait la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Agnès, qui est un esprit assez libre et ouvert pour l'époque. Et ils sont fascinés l'un par l'autre, ils tombent très vite amoureux, et ils entament une liaison aussi torride que fougueuse, et ils décident de se marier. Et dans la foulée, ils ont trois gosses. Alors, une fille aînée, qui s'appelle donc Elisa, et des jumeaux. une fille et un garçon. Et lui, un jour, se sent étriqué dans cet endroit et décide de partir à Londres pour devenir le dramaturge qu'il veut être. Oui, lui, c'est William Shakespeare, elle, c'est sa femme Agnès. Alors, elle va rester en arrière pour assumer seule les tâches domestiques et... dans le livre, c'est ce qui est véritablement ça, c'est il y a un drame familial qui va leur arriver et c'est vraiment l'épreuve qui va mettre leur couple à nu et surtout qui va engendrer visiblement un des chefs-d'œuvre intemporel de William Shakespeare qui est Hamlet. Alors c'est un film qui parle évidemment de filiation, de vocation, de deuil et de douleur. Mais c'est celle qui est, et comme le livre, mais c'est celle qui est faite par rapport à Agnès. Agnès, c'est vraiment elle, c'est l'épouse de William Shakespeare. Et comme lui est parti, donc il était fils de Gantier, il décide de partir à Londres pour se consacrer à son art, sûr d'y arriver tout de suite, hein, alors qu'il a quand même galéré un moment. Et Agnès est donc derrière avec Elisa et donc les jumeaux, on ne dit pas deux jumeaux, forcément jumeaux c'est deux, bravo Elisa. Ah bah c'est, t'en vas pas mieux au cerveau. Et les jumeaux Judith et Hamnet. Et Judith va contracter une maladie. Personne ne sait à peu près, enfin, les médecins savent, mais ils sont très pessimistes. Et en fait, son jumeau, Hamnet, va décider de se sacrifier, d'attraper la maladie de sa sœur pour la sauver. Ce qui va se passer. Et en fait, le film reprend bien sûr l'idée de Maggie O'Farrell, hein, puisqu'on n'a pas vraiment de données sur cette histoire-là. Sur ce qui aurait créé, qui aurait fait germer dans l'idée de William Shakespeare, l'idée de création de Hamlet, inspirée de la vie de son propre fils, puisque en anglais du XVIe siècle, Hamnet et Hamlet s'écrivent de la même façon. Voilà, donc c'est une interprétation sur le nom, tout simplement. Alors c'est un film, bien sûr, qui tourne autour de l'amour que ces deux êtres se portent quand ils se rencontrent, de leur début de vie commune et de parents, mais surtout ça tourne autour de cette jeune femme qui assume tout. Elle est à la fois mère, épouse, femme, elle assume les charges ménagères, les absences de son mec, le ménage, le travail, les enfants, la peur du futur, le fait que lui est loin, il y a des énormes rumeurs d'infidélité, et croyez-moi que le grand Will s'est pas gêné, et bien sûr la perte de cet enfant. Voilà, et le deuil qui va arriver, et le fait que y a quand même une rupture dans cette peine, parce que l'un ne la vit pas pareil que l'autre. C'est un film qui est sublimement filmé. Bon, alors après, Chloé Zhao est connue pour sa beauté. C'est une réalisatrice chinoise, elle est connue pour la beauté de sa mise en scène et de sa façon de filmer, parce que les décors sont vraiment très beaux, les plans sont toujours très travaillés, ça se voit, la lumière appuie là où il le faut. Alors, ne parlons même pas des costumes, du texte, etc. Enfin, vraiment très très beau. Et les scènes, chaque scène, chaque morceau, séquence, parce que c'est vraiment du séquençage, sont, on dirait, des peintures des plus grands maîtres du clair-obscur. Voilà. Vraiment, c'est-à-dire si vous figez une image, vous vous dites c'est pas possible, c'est un tableau ce truc. Voilà, c'est vraiment très 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 beau. C'est un film qui bouleverse en fait parce que y a à la fois une très grande modernité, alors pas forcément dans la mise en scène de la réalisatrice, mais il y a une très grande modernité dans les façons de gérer les émotions. Et puis c'est intemporel, amour, mariage, deuil, etc. Enfin, c'est des sentiments que tout le monde va vivre dans sa vie, même maintenant encore. Enfin, on espère, On n'espère pas pour vous du tout le deuil d'un enfant, ce qui est quand même la pire des choses qui arrive à des parents. Et à des grands-parents, on n'y pense jamais, aux grands-parents et aux frères et sœurs. Hein, c'est quelque chose de traumatisant. Mais voilà, mais le rapport de on est, on vit, on meurt, c'est à peu près, je rappelle, c'est la finalité de la bestiole. Hein, voilà, c'est à peu près ce qu'on fait hein, quand on est, on sait qu'il y a une date de péremption dessus. Mais ce film-là est vraiment. Montre. En fait, le bouleversement que ça a pu être dans la vie de l'un et de l'autre, mais qui ne l'ont pas vécu de la même façon. Et visiblement, Shakespeare l'a vécu d'une autre façon et en a fait en fait un moteur pour créer son Hamlet, pour pouvoir justement exorciser ce qu'il avait imaginé ou vécu ou ressenti ou autre. Alors après il y a une chose, alors celui qui interprète William Shakespeare c'est Paul Mescal. Alors je sais que c'est la grande mode de Paul Mescal, personnellement moi d'un gladiateur il m'a laissé vraiment froide. Deux, de toute façon rien ne vaudra le gladiateur avec Russell Crowe, on est d'accord sur la question. C'est dommage parce que le 2 avait quand même 2-3 bonnes idées, mais il a le charisme d'une moule ce garçon, surtout dans le gladiateur 2. Alors là il est pas mal, mais moi, il me révolutionne absolument pas du tout. Par contre, alors en face, il a un avion de chasse. Jessie Buckley, qui interprète donc Agnès, elle est absolument magistrale. Elle est entre modernité de cette jeune femme, fougueuse, amoureuse, jeune fille éperdument folle de ce garçon qui ne rêve que de mots, de pièces de théâtre, de spectacles, de machin, qui se sent étriqué dans cette vie, qui l'amène sur ses idées folles, et de l'autre côté, une mère absolument terrifiée par la maladie de sa fille et la perte de cet enfant qui se littéralement se sacrifiait pour sa sœur. Et elle a un côté un peu, alors elle a une volonté de faire, mais elle a une foi inébranlable. Elle est un peu bigote, comme pas mal de gens à cette époque-là, mais elle a une modernité dans l'esprit, dans la façon dont elle accepte de lâcher son époux pour que celui-là, que ce dernier arrive à sa gloire à lui et en ayant d'autres muses qu'elle. Voilà. Vraiment, c'est très 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 beau. C'est vraiment un très beau film. Si elle remporte pas un prix, Jessie Buckley, moi je sais pas ce qu'il faut faire quoi à un moment donné. Hein. Voilà. Vraiment, je pense qu'elle aura au moins un prix ou deux parce que c'est pas possible qu'il n'y ait pas des prix sur ce film là quoi. Après, ça interroge sur William Shakespeare. Hein. Bon, après, écoutez, moi j'aime beaucoup le grand Will, hein, donc voilà, ça fait partie de mes préférés. Et pas Hamlet ni alors Roméo et Juliette j'aime beaucoup mais c'est pas mon préféré. Moi j'aime beaucoup Le Marchand de Venise ou Beaucoup de bruit pour rien. Moi je dois avouer que ça envoie du bois quand même. Voilà, donc Hamlet donc de Chloé Zhao, si vous voulez aller le voir au ciné vous pouvez y aller. On fait une petite pause musicale. Ah non, on fait pas la pause musicale, on parle du film. Ah oui. Alors le film sur le ciné, j'allais dire n'importe quoi. Le film sur la plateforme, c'est Netflix, c'est Wake Up Dead Man, donc c'est à couteau tiré 3 de Rian Johnson. Moi je vais vous le dire tout de suite, on va pas y passer 8 jours. allez le voir. Ah maintenant il faut aller le voir. Alors c'est l'histoire donc de Benoît Blanc qui est le détective qui va arriver dans une église régentée par un espèce de gourou. Prêtre mais gourou, à qui on a adjoint un jeune prêtre qui est là pour enquêter sur le crime du dit prédicateur. C'est un crime. Benoît Blanc a 3 coups d'avance sur tout le monde, etc. Mais ça vaut surtout par les personnages et surtout par les interprètes. Le duo Daniel Craig, Josh O'Connor, qui est absolument brillant depuis ses débuts, mais alors là, il est plus que brillant. Il arrive à éclipser des gens comme Glenn Close, Josh Brolin, Andrew Scott. Vous avez aussi Mila Kunis, qui est cartoonesque dans le rôle qu'elle a. Franchement, c'est subtil, c'est drôle, c'est inquiétant, c'est surprenant, c'est vraiment très intelligent et très bien écrit. Franchement, toutes les zones d'ombre, même si on ne les capte pas tout de suite, et les ambiguïtés des personnages, c'est vraiment formidable. Vraiment, on a passé 2 heures et des poussières avec Wake Up Dead Man, donc c'est à couteau tiré numéro 3 de Rian Johnson sur Netflix. Allez-y, il n'y a rien à dire de plus que allez-y. Autant le deuxième nous avait laissé un peu sur notre fin, hein, ouais, un peu. Autant celui-là, on y est allé, mais droit devant. Voilà, vraiment. On finit ou on met une chanson et après on revient pour juste finir. On met une chanson. Allez, Lio, fallait pas commencer et après on parle d'une chanteuse, d'un documentaire sur Arte.
Avec ma meilleure amie, dis-moi, je parie que t'as bien ri de moi. Ça, mon Dieu, tu vas. La vengeance est un plat qui se mange froid et tu vas te glacer des froids en constatant que mon appétit est loin d'être petit petit. Tu peux prendre tes jambes à ton cou, et avant que je te le donne, ce qui ressemblerait encore beaucoup trop à de la miséricorde. Tu regrettes tes écarts, mais maintenant c'est trop tard.
C'était donc Lio avec Fallait pas commencer, et nous on va parler de Nena. sur Arte. Le documentaire s'appelle Phénomène des années 80. Alors, est-ce que vous connaissez, je suppose, pas forcément son vrai nom, qui s'appelle Gabriele Suzanne Krenner? Oui, c'est la chanteuse et, on va dire, la tête de proue du groupe Nena. Alors, tout le monde connaît au moins la chanson 99 Love Ballon, mais pourtant, c'est une artiste qui est particulière. Alors, Nena, en fait, ça lui vient de ses parents, qui allait souvent en vacances à Barcelone. Ça vient de Nina, donc petite fille en espagnol, donc ils l'ont transformée en Nena. Alors tout le monde connaît ce tube, c'est un tube mondial. D'ailleurs, ils ne pensaient même pas du tout qu'un tube en allemand qui était créé pour la nouvelle vague de ces artistes allemands qui arrivaient, qui ont décidé de travailler et de créer dans la langue de Goethe, qui va exploser à la face du monde. Alors c'est un portrait assez joli, parce qu'elle est, c'est une artiste que je suis depuis ses débuts, en fait, depuis que j'ai entendu pour la première fois, je crois que c'était en 82-83, 99 Love Ballon, que des potes m'avaient traduit. Parce que ne connaissant pas du tout l'allemand, et alors moi et l'allemand ça fait 19, hein, j'ai fait un blocage, hein, pourtant j'ai des potes allemands et des gens, des amis qui parlent allemand, mais il n'y a rien à faire, j'ai vraiment un problème de blocage, et qui en fait est un titre qui est très très sombre, contrairement à son rythme très dansant, parce que ça parle de en fait ça partait d'un concert des Rolling Stones qui avait été fait à l'Ouest, à Berlin-Ouest, et en fait il y avait des dizaines de ballons de baudruche qui étaient partis, et en fait dans la chanson ils expliquent que ces ballons auraient pu être pris pour être des bombes, et donc l'Est, puisqu'on est en pleine guerre froide, l'Est aurait pu déclencher un conflit nucléaire ou irrémédiable à cause de ces petits ballons, en fait, en gros, mignons, quoi. Voilà. Alors, c'est vraiment la rétrospective de la carrière de Gabrielle en tant que Nena, en tant qu'artiste. Alors, attention, c'est vrai que c'est une fille assez clivante, parce qu'elle a des déclarations qui sont quelquefois à la limite insultantes ou clivantes, racistes, très nationalistes quelquefois, mais il n'empêche que c'est une artiste assez libre. C'est aussi une maman meurtrie, hein, puisqu'elle a perdu son premier enfant qui avait 11 mois parce qu'il était lourdement handicapé, mais elle s'en est occupée d'une manière exemplaire. Mais voilà, c'est un très beau documentaire sur une femme qui est assez particulière, je vous dis, qui est assez clivante, mais qui a une longévité incroyable, qui a touché au conte pour enfants, qui a fait des albums pour des enfants, elle a fait des films, elle a fait des séries, elle a animé des émissions de télévision. Elle a quand même toujours un peu cette candeur en interview. Qui fait que même si elle a des propos qui ne me plaisent pas du tout et que je ne cautionne pas ce qu'elle peut dire, j'aime ce qu'elle fait. Voilà, il y a beaucoup de chansons d'elle que j'aime en tant qu'artiste solo après derrière. Alors il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Lieb Ist. Je suis pas sûre que je la prononce correctement et que nos amis germanophones ne hurlent pas, parce que moi on a bien compris ça, que j'aime beaucoup. Voilà, mais bon, c'est un documentaire à voir si vous voulez vous intéresser. Alors, on revient beaucoup sur la carrière du groupe, hein, Nena, bien sûr, de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80, quand ils ont commencé à décliner et ne plus être écoutés à part les aficionados et quelques exilés. Voilà, donc franchement, c'est un très beau documentaire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, je vous dis, on peut aimer un artiste sans cautionner tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait. Voilà, c'est l'éternel débat, mais moi je me suis positionnée comme ça, parce qu'en étant artiste, je pense que ce que j'écris ou ce que je crée n'est pas forcément ce qui je suis. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc ça c'était tout ce qu'on a vu au mois de janvier, même si l'autre, Nena, il a même pas lu, enfin il a même pas regardé, il s'en fout. En fait, il m'a dit « Ah non, je connais pas, je m'en fous. » Super. Voilà, donc on va vous laisser pour cette semaine. Ils sont contents, on se retrouve la semaine prochaine. Trois à la fois, hein, trois à la suite, ils en peuvent plus déjà. Ils se disent, oh, quand c'est la pause. Bon, la semaine prochaine, évidemment, on parlera des livres que j'ai lus au mois de janvier. Et croyez-moi, il y en a des très bons. D'ici là, portez-vous bien. Nous, À Liberté FM, on s'occupe de vos petites oreilles, mes petits camarades aussi, et vous, vous occupez de vous, de vos proches et de ceux que vous aimez. Faites attention à un rhume, machin, foin, tout. Et d'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon appétit pour ceux qui vont manger maintenant. Nous, on se quitte avec Bruno Mars et Mark Rox Ronson pour Uptown Funk, sachant que Bruno Mars nous a fait la très jolie surprise de nous sortir un nouvel album avec une chanson qui est juste parfaite. Lui, il fait un album tous les 10 ans et tout est parfait, c'est énervant. Mais en fait, tant mieux. Voilà, ça va nous mettre du baume sur le cœur, parce que pour ce moment, c'est compliqué. Allez, Bruno Mars, Mark Ronson, que j'aime beaucoup aussi, Uptown Funk, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.
This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop, wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up.